10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour, bonjour à tous et bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Bienvenue donc au grand rendez-vous. 2 ans déjà, demain exactement, cela fera 2 ans qu'Emmanuel Macron donc a été élu président de la République. Il disait vouloir transformer la France et il est vrai que on a parfois du mal à la reconnaître. C'est un pays en chantier, bouleversé donc par une crise profonde, symbolisée par le mouvement des Gilets jaunes, dont le président a reconnu lui-même la profondeur et l'ampleur donc du soutien dans la population, d'où sa volonté de changer de méthode. On en parlera avec un triple enjeu, pouvoir d'achat, justice fiscale, renouveau démocratique. 2 ans au pouvoir et à la veille du premier scrutin national depuis 2017, eh bien des sondages mettent la liste RN du parti de Marine Le Pen au coude à coude, voire devant la liste Renaissance soutenue par la majorité pour le scrutin européen du 26 mai. Alors Stanislas Guérini, vous êtes un de ces nouveaux visages de la Macronie à la tête du mouvement présidentiel La République En Marche. Vous nous direz si c'est un parti, une ONG ou un comité de soutien pour les élections. Et surtout, on attend effectivement des réponses aux questions que se posent les Français sur l'action de la majorité du président qui cible parfois toutes les critiques jusqu'à une haine parfois irrationnelle. Alors on constate également que dès que vous prenez la parole, vous concentrez les attaques dans les débats avec vos collègues chefs de parti au point de parfois ne pas savoir où commencer quand il faut répondre. Alors ce matin, vous allez pouvoir nous expliquer si le macronisme existe avec Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews. Qui vous pose la première question?
Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Et oui, on est effectivement à 2 ans de cette élection d'Emmanuel Macron. Si on votait aujourd'hui, on est dimanche, pensez-vous eh bien, qu'Emmanuel Macron serait réélu?
C'est ce que indiquent parfois les enquêtes d'opinion, qui montrent que nous avançons, que le pays se transforme. Au fond, à le moment de l'élection présidentielle, on avait fait 2 promesses aux Français. Libérer les énergies dans le pays et puis protéger ceux qui en ont le plus besoin. Je crois qu'on est fidèle à la promesse qu'on avait faite. Je crois qu'on est une majorité qui a agi énormément, qui a d'ailleurs appliqué le programme pour lequel elle a été élue. Parfois, je sais que ça peut décontenancer dans la vie politique française. Aujourd'hui, le pays est en train de se transformer. Il y a des choses qui vont mieux.
Mais
le travail paye plus.
Donne toujours quand même
il y a des créations d'emplois.
Une
mais ça, c'est
majorité
important.
De Français je veux sont défavorables
bien
à l'action
qu'il y a
du chef
sondages,
de l'État.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le pays puisse se transformer, alors, qu'il puisse y avoir des résultats. Et donc, je crois que c'est à l'aune de cela que l'on sera jugé.
Alors, vous avez parfois
la crise que l'on vit. Je vais juste dire ce mot. Je crois que c'est une crise de résultats.
On va en parler, bien sûr. Vous avez dit parfois, des sondages donnent effectivement un président donc, qui serait réélu, mais on voit également, vous dites ça transforme, mais un quinquennat qui est quand même frappé, on va en parler bien sûr, par la crise des Gilets jaunes. La promesse du candidat, c'était de changer les usages, de changer les modes de fonctionnement. 2 ans plus tard, on a vu Jupiter faire le tour des maires de France. Est-ce que finalement, il n'est pas allé trop vite?
Je crois que c'est un changement de méthode, effectivement, qu'il faut avoir. Je suis très lucide sur notre bilan. Je crois qu'on a beaucoup agi,
parce qu'il
je le disais, sur beaucoup de champs, mais que la méthode n'a pas suffisamment changé. Au fond, une part de notre promesse, c'était de changer la vie politique. Et la politique n'a pas assez changé. Il faut le dire sans détour. Et donc, oui, on doit mieux associer les citoyens, les territoires et les corps intermédiaires. Et je crois que c'est l'essentiel, au fond, des annonces du président de la République jeudi dernier. C'est ce changement
profond de méthode. Mais c'est aussi votre
mea culpa,
c'est ce que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à présent.
Oui, pourquoi ne pas le dire? Moi, j'étais un citoyen qui n'était pas engagé dans la vie politique. Et je crois que c'est ça aussi la méthode du macronisme, c'est de savoir reconnaître quand il y a des choses qui ne vont pas. Pouvoir changer, eh bien oui, sur la méthode, il faut effectivement que nous associons plus. Au fond, on ne peut pas réformer à la place des Français. Il faut le faire avec les Français.
Mais vous l'avez cru au début que vous pourriez réformer à la place des Français ou sans la politique, on a l'impression
je
que,
crois qu'il
au fond,
était
vous
légitime
la politique.
De vouloir aller vite. Il y a des réformes qui avaient été mises sous le tapis depuis trop longtemps. Je pense à la réforme du marché du travail, je pense à la réforme de la formation professionnelle, je pense à la réforme de la SNCF. Toutes ces réformes, au fond, les hommes politiques en parlaient beaucoup, mais ne les faisaient pas. Donc oui, je crois qu'il fallait lancer ces chantiers. Mais maintenant, il faut faire le dernier kilomètre de la transformation du pays. On voit que très souvent, on mène des chantiers très importants. Prenez la réforme de la formation professionnelle. En réalité, c'est un bing-bang pour mettre fin au gâchis qu'était la formation professionnelle. Mais il y a un travail de terrain à faire extrêmement minutieux pour que ces réformes transforment plus concrètement la vie quotidienne de nos concitoyens. Je crois que c'est l'enjeu principal de ce qui nous attend dans les 3 années qui sont devant nous.
Alors, dans l'immédiat, pour répondre à la crise des Gilets jaunes, on va un peu rentrer dans le dur. Le gouvernement a ouvert les vannes, on peut dire ça, puisqu'il y a plus de 17 milliards d'euros de dépenses qui sont engagées. Et honnêtement, on ne sait pas très bien comment tout ça va être financé, à part par du déficit et de la dette. Est-ce que vous avez des pistes à ce sujet, par exemple, pour réduire des dépenses publiques qui pourraient financer
ces
dépenses très importantes qui sont engagées aujourd'hui?
Bien sûr qu'il faut parler du financement, mais un mot pour dire pourquoi est-ce qu'on fait ça? Trop souvent dans la vie politique, on dit le comment avant de dire le pourquoi. Le président de la République, cette majorité, a réagi comme aucune autre auparavant. En un mois de temps, nous avons effectivement fait le choix d'accélérer le programme qui était le nôtre, qui était de rendre du pouvoir d'achat aux Français en baissant les impôts, en augmentant la prime d'activité, en faisant en sorte que le travail paye plus. Et donc moi, je suis très satisfait qu'on ait pu prendre ces mesures-là. Vous vous rendez compte? Il y a 1,5 million de personnes supplémentaires qui touchent maintenant la
CSG. Pardon, revenons sur la CSG pour les retraités, ce n'était pas votre programme. Vous êtes revenu sur une mesure.
Ajusté, alors que, effectivement, notre engagement de campagne, c'était de baisser les charges sur le travail et de financer cette baisse de charges en augmentant la CSG. Nous avons effectivement pris conscience qu'un effort trop important avait été demandé à une catégorie de retraités et donc nous avons réagi. Et ça, c'est inédit aussi. Donc, il fallait le faire. 15 milliards d'euros, ce ne sont pas 15 milliards d'euros jetés par la fenêtre.
Ce sont 15
milliards d'euros qui sont rendus aux Français.
Comment on fait ?
Alors, comment on fait ? Eh bien, d'abord, on continue à baisser la dépense publique. Parce que depuis deux ans, nous avons initié cette baisse de la dépense publique. Vous savez, cela faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas voté deux budgets successifs sous les 3%. Est-ce que l'on peut s'en satisfaire ? 2%, 2,5% de déficit ? Non, pas encore. Mais reconnaissons que la direction va dans le sens de la réduction de la dépense publique. Il faudra continuer.
Mais alors,
continuer comment ?
À quel endroit, justement ?
En modernisant. Quand on fait le prélèvement à la source, tout le monde nous disait « ne faites pas cette réforme, ça ne va pas fonctionner ». On l'a fait. Ce sont 3 000 postes de fonctionnaires qui pourront être non remplacés parce que nous avons fait ces actions de modernisation. Donc il faudra continuer à le faire. Et puis, il faut faire des choix. C'est ça l'action publique. Quand on choisit de revenir sur les emplois aidés, en mettant plus d'argent sur la formation professionnelle, moins d'argent sur les emplois aidés, ce sont des choix qui permettent des économies. Quand on fait des économies sur les chambres de commerce, quand on fait des économies sur le logement, en arrêtant cette spirale inflationniste qui augmente les aides, mais qui augmente les loyers
justement,
en parallèle,
on va lui demander de faire des choix sur quelle niche fiscale est-ce qu'on rabote, par exemple. Alors, c'est quoi vos choix à vous?
Est-ce
qu'il faut revenir sur la TVA, sur la restauration, par exemple? Apparemment, ce n'est pas tellement à l'ordre du jour, mais enfin, vous avez peut-être un avis là-dessus.
Olivier Grégoire, est-ce que c'est efficace dans le JDD aujourd'hui? Quelles sont les...
C'est quoi vos pistes?
Nous allons mener ce travail. Nous avons dit clairement que nous ne voulions pas toucher aux niches fiscales qui concernent les particuliers. Et donc, le champ du travail sont les niches fiscales qui concernent les entreprises. Il y a à peu près 100 milliards d'euros qui est notre base de travail. Ce que nous voulons faire, c'est aller voir de façon très précise, c'est le travail des députés, de la commission des finances, quel est l'empilement, parfois inefficace, d'aides aux entreprises. Il y a des aides qui sont parfois versées par les régions, par l'État directement. Bien, je crois que c'est ça le champ dans lequel il faut qu'on travaille.
La TVA sur la restauration, c'est efficace pour vous ?
Pour moi, c'est plutôt pas la piste de modification qu'on doit emprunter. Je ne souhaite pas que l'on vienne mettre à mal la cohérence de la politique de cette majorité, qui est une politique en faveur des entreprises, en faveur de la productivité, de la création d'emplois. Et donc, pardon, mais j'essaie de vous répondre de façon complète. Je crois que dans la méthode, là aussi, il faudra être attentif à ne pas déstabiliser les filières. Et donc, moi, je pense qu'il faut le faire avec deux indicateurs. D'abord, penser les choses de façon pluriannuelle, ne pas faire une réforme sur un coin de table d'une année sur l'autre où on ne donne pas de visibilité. Et puis ensuite, faire en associant les acteurs, en associant les partenaires
justement,
sociaux.
Alors,
Stanislas avec eux, Damien Fleurot.
Associer les acteurs, vous dites, ce lundi sera marqué par cette journée de mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi, une réunion à Matignon avec des partenaires sociaux, enfin reçus très officiellement par le chef du gouvernement. Là aussi, il y a un changement de méthode, mais est-ce que vous vous engagez à suivre les recommandations qui pourraient déboucher de cette consultation?
Bon, d'abord, je vais faire remarquer que ce n'est pas la première fois que les partenaires sociaux quand même sont reçus.
Non, mais il y a une invitation, un changement de méthode.
Vous avez raison.
Clairement au démarrage de cette émission, oui, il faut davantage associer les partenaires sociaux. Pourquoi faire ? Non pas pour changer de cap, changer la cohérence de la politique économique que nous menons, mais pour être plus efficace et plus concret. Nous avons engagé une grande réforme pour l'apprentissage, pour la formation professionnelle, une mobilisation pour faire en sorte que le travail paye plus. Mais voilà, parfois, cela met du temps à se transformer. Et donc, moi, je crois qu'avec les partenaires sociaux, sur la transition écologique, sur les sujets que je viens d'évoquer, il faut travailler avec eux pour que, justement, on mette en place des mécanismes concrets qui permettent
donc,
de faire le dernier kilomètre
cap,
de la réforme.
Le
et
cap,
donc,
mais
ce qui sera décidé collectivement, bien sûr que ça sera appliqué. C'est comme ça qu'on doit travailler désormais, en associant davantage, au plus près du terrain, ceux qui vont nous aider
Stanislas
à faire la transformation de ce
pays. Stanislas Guérini, vous parlez des partenaires sociaux, vous parlez du changement de méthode, mais jusqu'à présent, on a le sentiment qu'effectivement, les Français sont assez sceptiques avec toutes ces annonces et la manière dont tout cela se met en place. C'est trop long pour eux. Ils voulaient, au fond, des mesures pour leur quotidien, pour le lendemain, et ils vont devoir attendre encore plusieurs mois avant de voir des effets pour leur pouvoir d'achat. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage qui va être un problème politique ?
Bon, d'abord, vous voyez parfois les demandes un peu contradictoires. Vous m'interrogez il y a une seconde en disant vous avez décidé 15 milliards d'euros de pouvoir d'achat et de baisse d'impôts.
Non, c'est sur le temps,
ça
c'est
va trop vite.
Comment
vous
allez financer ?
Donc, nous avons agi suffisamment vite. Mais permettez-moi de faire remarquer qu'il y a peu de moments dans l'histoire politique de notre pays où en un mois de temps, il y a 1,5 million de personnes qui ont touché la prime d'activité supplémentaire. Ou en un mois de temps, il y a plus de 2 milliards d'euros
qui ont été versés. Mais sur la fameuse baisse d'impôts annoncée
pour l'État
moyen, c'est
pas avant
la prochaine loi de finances.
Il y a eu des actions qui ont été immédiates. Mais ce que je crois, et ce qui au fond mine la vie politique de notre pays, c'est justement le décalage entre des annonces et puis un manque de résultats concrets. Prenez la transition écologique, qui a tant été abordée et qui a un enjeu si important pour notre pays. On voit bien que ce n'est pas un problème d'argent public qui est mis, ce n'est pas un problème de mesure, c'est un problème de transformation
concrète. Ma
question
était sur le pouvoir d'achat pour les Français, pour la fin du mois, pas sur la transition écologique, pas la fin du monde, la fin du mois. Qu'est-ce que vous répondez aux Français qui disent on aurait voulu avoir des mesures pour demain ?
Ben, je réponds que quand on prend des mesures pour que la prime d'activité soit augmentée, que le travail paye plus rapidement, ce sont des mesures immédiates pour le pouvoir d'achat. Et que c'est de cette façon-là qu'on doit continuer à transformer le pays. Mais sortons cette logique qui veut que par une mesure, une baguette magique, on fasse croire aux gens qu'on va régler tous les problèmes de pouvoir d'achat d'un coup, d'un seul. Non, il faut effectivement aller plus en profondeur pour changer plus durablement la vie des Français.
Eh bien, on se retrouve après la pause et on parle de la campagne des Européennes.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré. Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et là, on se retrouve avec Stanislas Guérini. On va aborder maintenant la campagne des Européennes. Nicolas Barré.
Alors, on sent que la campagne, justement, de votre candidate, Nathalie Loiseau, a quand même un peu de mal à prendre. Elle a commis des gaffes. Et puis surtout, vous êtes dans plusieurs sondages derrière le Rassemblement national. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette campagne ? Et est-ce que le président de la République doit, par exemple, s'engager derrière sa candidate ?
D'abord, moi, je crois qu'il faut regarder les choses lucidement, effectivement. On a, à un moment donné, dit que les choses se feraient de façon quasiment automatique, que la liste Renaissance serait forcément et automatiquement en tête.
Ça allait
non,
être facile.
Ça a été dit par les commentateurs.
Ouais.
Moi, je n'ai jamais cru. Et on voit aujourd'hui
vous
que
avez toujours dit
l'enjeu,
que ce serait difficile,
bien sûr,
que vous seriez derrière la liste de Marine Le Pen.
Et moi, je n'ai pas oublié qu'aux dernières élections européennes, c'est bien le Front National qui était en tête et que ce risque-là, c'est-à-dire le risque de voir la France dans les institutions européennes affaiblie, est un risque qui existe et donc qui nécessite une mobilisation de tous ceux qui croient à l'Europe. La finalement catastrophe de tout ça, c'est de penser que 40% seulement des électeurs se mobilisent pour aller voter pour une élection qui est un enjeu si important. Et donc je pense que l'enjeu numéro un, c'est l'enjeu de mobilisation. Je crois qu'il y a une différence entre ce qui se passe sur le terrain. Vous savez, nous avons mené plus de 400 réunions publiques depuis le début de cette campagne et ce qui est parfois commenté au niveau national. Ce que je vois, c'est que nous faisons le rassemblement. Le rassemblement au niveau français, parce que nous avons conduit une liste de rassemblement. Et ce rassemblement, il prend corps sur le terrain. Quand Nathalie Loiseau va en Bretagne, c'est une cinquantaine de maires de toute formation politique, du Parti Socialiste, de l'UDI, de différentes tendances, bon, qui soutiennent Nathalie Loiseau. Elle sera à Caen, en Normandie, dès la semaine prochaine. Une centaine d'élus soutiendront la liste et viendront contribuer à ce rassemblement. Parce que c'est ça la bonne question. Pardon, Michaël Darmon, mais la bonne question de ces élections européennes, c'est comment la France... c'est toujours la bonne question. Mais comment la France va peser demain ? Et je crois qu'effectivement, si nous réussissons à faire le rassemblement, et nous donnons au président de la République, puisque c'est en partie la question.
Alors,
que
il doit
poser,
s'engager ou pas,
un
selon
groupe,
vous?
Mais
allez-y, dites-le.
Il est déjà
vous êtes,
engagé.
Apparemment, vous n'êtes pas, vous êtes sans langue de bois depuis ce matin, donc c'est
mais
très bien. Bon, continuez.
Est-ce qu'il doit s'engager dans cette campagne
vous savez,
davantage?
La campagne, d'une certaine façon, pour moi, je l'assume très tranquillement, elle a été lancée quand le président de la République a mis un projet politique sur la table en signant une tribune,
ça, c'est
Renaissance,
l'acte 1, mais l'acte
qui a donné
de l'engagement.
Son nom à la liste. Et donc, nous assumons parfaitement le lien avec le président de la République.
Ça, c'est heureux.
Et donc,
mais
oui,
est-ce qu'il doit s'engager personnellement?
Ce n'est pas à moi de dire la forme. Non. Mais je crois qu'effectivement, il faut assumer dans cette campagne que la liste qui soutient l'action du président de la République au niveau européen, c'est la liste Renaissance. Donc, ne cherchons pas à dissimuler le lien. Oui, moi, je dis aux Françaises et aux Français qu'il faut donner de la force au président de la République pour
mais
pouvoir
que ce
rendre
matin,
la
vous
France
demandez...
forte en Europe.
Est-ce que ce matin, vous souhaitez ou formulez le mais vœu que le président de la République s'engage par un meeting, par une interview, en tout cas qu'il s'engage dans la campagne?
Mais je crois que ça serait positif, bien entendu. Je crois que ce serait positif parce que le président de la République est engagé dans ce combat.
Il ne reste plus beaucoup
européen.
De temps. Hein.
Mais vous avez remarqué que ces élections européennes vont se jouer dans un temps court.
Donc ce sera quand la semaine prochaine
que, effectivement, les Français n'ont pas eu encore totalement la tête aux européennes. Il reste 20 jours. 20 jours pour poser les bonnes questions dans cette campagne. Moi, je le dis, la bonne question, c'est comment, demain, la France sera plus forte dans les institutions européennes. Je vois que ces dernières années, la France a été affaiblie par les députés qui l'ont représentée, soit parce qu'ils voulaient détruire l'Europe, c'était le cas des députés du Rassemblement National, soit parce qu'ils n'étaient pas très présents dans les institutions européennes. Demain, nous avons la chance de construire un groupe fort au Parlement européen qui soutiendra le président de la République
alors,
dans son action.
Stanislas Guérini,
parce
vous
que
êtes...
c'est le seul Damien qui, Flo. Aujourd'hui, fait bouger l'Europe.
Stanislas Guérini, vous êtes prudent donc sur les formes que pourrait prendre l'engagement du président de la République dans cette campagne. Il a sonné, en tous les cas, la mobilisation générale de son gouvernement au Conseil des ministres. Il a tapé du poing sur la table. Et finalement, donc acte, le Premier ministre sera sur le terrain demain soir, vous l'avez dit, à Caen, aux côtés de Nathalie Loiseau.
Date, mais ça sera le cas.
C'est finalement pas un peu tard. Est-ce qu'on n'est pas aussi là sur les limites de ministres peut-être trop techno et pas suffisamment politiques, prêts à faire campagne?
Non, je ne crois pas. Encore une fois...
Tel que l'a suggéré le président de la République lui-même, quand même.
Il y a eu, depuis le début de cette campagne, plus de 400 réunions publiques sur le terrain, avec les membres de la liste, avec des membres du gouvernement. Et donc, nous sommes présents. Vous savez, nous, la campagne, nous l'avons commencée l'année dernière, en faisant une grande marche pour l'Europe. Nous étions la seule formation politique à avoir fait cela. Nous sommes allés interroger 80 000 Français qui nous ont permis de construire notre projet pour ces élections européennes. Donc nous sommes résolument la formation politique et le rassemblement donc des formations politiques pro-européennes et alors, qui faisons campagne sur le terrain.
Sur le rassemblement, c'est pas si évident quand même parce que vous avez le commissaire européen Michel Barnier, le négociateur du Brexit, qui a annoncé qu'il allait voter pour la liste de François-Xavier Bellamy, donc à droite. Vous avez d'autres commissaires, d'autres
qu'il a
figures.
Dit avec un enthousiasme que vous pourrez reconnaître modéré.
Vous avez d'autres figures social-démocrates qui ne se prononcent pas en faveur de la liste de Nathalie Loiseau. Je pense au commissaire européen Pierre Moscovici, qui a l'air de pencher plus à gauche ou plus écolo. Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne s'est pas prononcé pour votre liste. Du coup, vous parlez de rassemblement, mais enfin, ça a l'air un peu compliqué quand même.
Vous savez, moi, ce que je constate, c'est que nous sommes la seule liste aujourd'hui qui peut dire qu'il rassemble 6-7 formations politiques, des écologistes, des radicaux, Agir, le Modem, La République En Marche, d'autres formations politiques qui, effectivement, au niveau européen, et je note que la tribune du président de la République avait été soutenue, accueillie favorablement par 8 chefs d'État européens, dont des sociodémocrates du sud de l'Europe, au Portugal, en Espagne. Et donc nous sommes en train de construire cette coalition des progressistes, des libéraux, des démocrates, de tous ceux qui veulent faire changer l'Europe parce qu'ils croient au projet européen. Et moi, je dis aux Français, oui, c'est possible de faire bouger l'Europe davantage qu'elle n'a bougé ces dernières années. Au fond, le Parlement européen, ces dernières années, c'était quoi? C'était deux grands groupes hégémoniques, le PPE, les sociodémocrates, qui se sont partagés toutes les responsabilités et qui ont endormi l'Europe sans projet politique. Eh bien, nous, nous portons un projet différent. Quand le président de la République est le seul chef d'État à dire « nous ne signerons pas d'accord commercial avec un pays qui a quitté les accords de Paris ».
Il fait campagne à ce moment-là. C'est de la posture.
Bah, c'est tout sauf de la posture, excusez-moi, mais
avec
je ne partage
les États-Unis.
Pas du tout votre vue. Oui, combien de chefs d'État avaient parlé de cela? Nous avons dit au Conseil, nous ne donnerons pas de mandat à la Commission pour négocier cet accord-là.
Certes, mais la Commission négocie c'est pas parce que la France dit non que la Commission arrête les négociations.
Mais vous venez de l'enjeu de cette élection. Pour donner le poids et la force au président de la République, dont chacun, même s'il ne partage pas totalement à 100% son action au niveau français, chacun peut reconnaître aujourd'hui que c'est le chef d'État qui, en Europe, fait bouger les lignes, a un leadership et assume ce leadership. Eh bien, c'est ça l'enjeu des élections européennes. Rendre la France plus forte, lui donner du poids. C'est pour ça qu'il faut voter pour la liste Renaissance. C'est pour ça qu'il faut que les Français se déplacent, parce qu'il y a tant de choses qui se jouent en Europe. Il faut que l'Europe se réempare des vrais sujets.
Autre enjeu de campagne, Stanislas Guérini, on le voit d'ailleurs dans le clip de la liste Renaissance, dans les propos, c'est se déclarer, au fond, ça a l'air d'être votre seul programme, se déclarer en guerre contre le populisme et la vague populiste qui viendrait submerger l'Europe. Or, les projections sur le prochain Parlement européen ne donnent pas cette vague populiste. Donc, au fond, pourquoi vous entretenez la peur comme ça face à cette Europe qui, au fond, ça ne donne pas envie
je vais vous
d'aller dans l'Europe telle que vous la décrivez.
Parce que vous doutez bien, je ne peux pas vous laisser dire que c'est notre seul programme. Mais je vais d'abord vous répondre sur la deuxième partie de votre question. J'ai noté que M. Orban avait fait alliance avec M. Salvini pour appeler à un rassemblement qui aille du PPE, groupe au Parlement européen dans lequel siègent les Républicains, jusqu'au groupe européen d'alliance des nations et des peuples, c'est-à-dire le groupe où siège Mme Le Pen et ses futurs eurodéputés. Bien, je crois qu'il faut clarifier les choses. Il y a effectivement un front qui va du PPE aujourd'hui jusqu'à M. Orban et M. Salvini, et je crois qu'il faut, dans cette campagne, poser les vraies questions. Les vraies questions n'ont pas encore été posées. Oui, il faut demander à M. Bellamy si, dans sa première décision politique demain, il compte siéger avec l'extrême droite en Europe. Et je crois qu'il faudra qu'il y réponde.
C'est la révélation politique de cette campagne à droite.
Plus clairement qu'il n'a su le faire quand on lui a demandé au deuxième tour de l'élection présidentielle pour qui il avait voté, pour M. Macron ou pour Mme Le Pen. Il ne peut pas rester dans cette ambiguïté-là. Parce que la question qui se pose en Europe, c'est est-ce que la droite française va définitivement faire alliance
avec
les nationalistes,
avec qui siégeront les eurodéputés de La République En Marche aussi, dans un groupe qui reste à former
sur ce sujet-là. Nous avons toujours dit, et d'ailleurs les faits, y compris les faits récents, puisque le groupe des libéraux et des démocrates s'est dissous, exactement pour refonder un nouveau groupe, exactement comme nous le disons depuis des mois, nous voulons créer au Parlement européen un groupe central qui sera l'alliance des démocrates, des libéraux, des progressistes. Vous savez, moi je me déplace dans toute l'Europe en ce moment, et je vois des formations politiques. Je vois des formations politiques qui vont des libéraux jusqu'aux sociaux-démocrates, qui nous disent « oui, nous pouvons ensemble faire bouger les choses, je crois que nous pouvons demain créer ce groupe, mais l'enjeu, il est d'abord français. Il est qu'aux élections européennes, les électeurs français donnent à la liste Renaissance la force pour pouvoir créer ce groupe.
Alors justement, vous parlez de débat, d'assumer les convictions, de pouvoir porter donc des idées fortes, mais voilà que Nathalie Loiseau refuse de débattre avec François-Xavier Bellamy, donc de la liste LR. C'est ça le débat porté avec conviction ?
Nathalie Loiseau fait des débats depuis le début de cette campagne. Je ne sais pas combien d'heures de débat elle en est. Moi-même, je viens de faire 9 heures de débat avec les différents leaders des formations politiques.
Mais pourquoi refuse-t-elle de débattre avec Bellamy ?
Mais parce qu'il faut que M. Bellamy réponde à des questions claires d'abord.
Je viens de les poser.
Avec qui veut-il gouverner demain en Europe ? Avec les extrémistes ? Avec
Mais vous ne répondez pas à la question.
Orban,
pourquoi refuse-t-elle de débattre ?
Des questions.
On est en débat, on est en campagne électorale.
L'agenda de campagne de Nathalie Loiseau pour les jours qui viennent, mais en tout cas, je ne crois pas qu'elle ait jamais refusé le débat. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut effectivement parler de fond.
Alors,
et quand vous disiez il n'y a pas de projet, bien, c'est totalement faux.
Parlons de votre programme.
Bien, merci de m'interroger là-dessus.
Mais en fait, finalement, il sera présenté tardivement le 9 mai, 17 jours avant le jour du scrutin. Pourquoi si tard ?
D'abord, excusez-moi de le constater, mais depuis le début de cette campagne, nous formulons des propositions tous les jours, chaque semaine, sur l'Europe sociale, sur la transition écologique.
Du projet est un moment important.
Le président de la République a publié une tribune. Dans la tribune du président de la République, il avait déjà plus de propositions que tout le programme des Républicains réunis.
Donc le programme,
réunis.
C'est la tribune du président.
Nous allons publier effectivement l'intégralité de nos propositions jeudi prochain, le 9 mai.
Il y aura des
surprises. C'est un jour symbolique. Nous ne voulions pas
il y aura des
mélanger,
surprises dans le...
mais il ne s'agit dans les... pas de surprise. La surprise, d'une certaine façon, ça serait que nous réussissions à faire en sorte que l'Europe se réempare des vrais sujets. Et les sujets prioritaires, c'est bien la transition écologique et la transition sociale. Ce sont les sujets qui d'ailleurs sont absents des autres programmes, des autres formations politiques. Et oui, nous, nous assumons cette priorité. Nous disons que c'est au niveau européen que nous pourrons porter la transition écologique en mettant plus d'argent que nous le mettons aujourd'hui. Nous avons fait la proposition de créer une banque pour le climat. Nous avons été capables de créer, à l'époque de l'intégration des pays de l'Est, une banque spécifique pour faire cela. Faisons-le pour mobiliser davantage d'argent, pour rénover les bâtiments, pour multiplier les énergies renouvelables, pour accompagner aussi socialement ceux qui vont devoir changer de métier, parce que la transition écologique, ce sont des métiers nouveaux. Nous allons porter au niveau européen ce que nous avons commencé à faire au niveau français. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons décidé de fermer toutes les centrales à charbon en France. C'est l'équivalent de la pollution de 2,5 millions de voitures dans notre pays. Eh bien, si nous faisons cela au niveau français seul, eh bien, ce n'a pas de sens. Il faut le faire évidemment au niveau européen. Et c'est pourquoi nous porterons ce projet-là aussi au niveau européen. Parce que l'écologie, ça ne peut pas être que les frontières, comme veut nous le faire croire Mme Le Pen. C'est au contraire de faire ces choix-là de chaque côté des frontières des pays de l'Europe.
Très bien, on se retrouve après la pause pour voir effectivement qu'une élection peut en cacher une autre.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et avec Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, donc à la tête donc, du parti majoritaire. Nous sommes à la veille de deux ans donc, de l'élection donc, d'Emmanuel Macron. On vient de parler donc, des élections européennes, mais on vous le disait, une élection en cache une autre. Vous préparez déjà activement forcément les élections municipales de 2020, de l'année prochaine. C'est déjà maintenant pour vous. C'est assez effectivement même préoccupant. La bataille de Paris est d'ailleurs lancée. On voit bien qu'il y a pléthore de candidats dans cette ville symbolique pour vous. Pourquoi ne pas organiser tout simplement une primaire qui serait quand même et démocratique et nouveau monde ?
Vous savez, La République En Marche est une formation politique qui s'est construite contre les primaires. Parce que nous faisions le constat que les primaires ont, au fond, abîmé la vie politique. À chaque fois, en faisant sortir les candidats les plus extrêmes dans leur camp. C'était vrai à gauche, c'était vrai à droite. Rappelez-vous, pendant l'élection présidentielle, la pression qu'il y avait eu sur Emmanuel Macron, au fond, pour qu'il participe aux primaires, ici ou là. Nous avons toujours dit que nous ne croyons pas à ce système-là, parce que l'élection, c'est la rencontre avec les électeurs, pas d'un camp qui doit déterminer quel est le barré-centre le plus à gauche.
Donc, qui décide,
je ne crois pas à ce système de désignation.
Vous préférez décider dans un bureau, dans une commission,
comme on le fait depuis 30 ans. En fait.
Toute la méthode, justement, c'est de faire en sorte que nous mettions en place, comme nous l'avons fait pour toutes les élections, notamment les législatives, qui nous a permis d'avoir un renouvellement très fort, qui nous a permis d'avoir à l'Assemblée nationale 50% de femmes dans notre groupe. 50% de gens qui n'avaient jamais fait de politique, ce qui était l'appel des citoyens. Et donc, si nous voulons tenir cette ambition-là au niveau national, avoir une cohérence pour les élections municipales aussi, eh bien, nous allons garder la même méthode. Et je mettrai en place une commission nationale d'investiture dès le lendemain des élections européennes, le jour d'après, pour que cette commission puisse investir des candidates, des candidats qui soient justement fidèles à ce que nous voulons porter, y compris dans ces élections municipales, c'est-à-dire le renouvellement des usages et des visages. Et c'est avec cette seule boussole que nous allons fonctionner. Moi, j'ai trop vu, dans des formations politiques, des choix se faire parce qu'il y avait ici ou là des baronnies locales. Je veux de la cohérence.
C'est ce que vous avez reproché à Paris par certains de vos...
Eh bien, c'est le contraire de ce que nous allons faire. C'est le contraire de ce que nous allons faire, puisqu'il y aura justement, indiscutablement, une commission nationale d'investiture qui travaillera en transparence, qui prendra le temps d'auditionner les différentes candidatures. Et c'est bien, et c'est comme ça que cela va se passer.
Il n'y aura pas de victoire de votre formation politique, La République En Marche municipale, si vous ne parvenez pas à remporter certains scrutins symboliques. On parle de Paris, mais il y a aussi Lille, Marseille, par exemple. Vous vous fixez quels objectifs pour ce scrutin, justement ?
L'objectif que je me fixe, il est un petit peu différent de ce que vous venez de dire. C'est que nous réussissions à faire la nouvelle étape de l'engagement citoyen dans la vie politique.
C'est-à-dire,
et c'est ça l'objectif.
D'entrer dans
c'est-à-dire
les conseils municipaux.
Que beaucoup de citoyens et de citoyennes qui aujourd'hui ne participent pas à la vie politique directement, ils le font pas à travers leurs engagements associatifs, ils le font dans leur engagement, dans leur vie professionnelle, qu'on puisse les amener à la vie politique locale.
Enfin, si on traduit, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de relais et qu'il faut rentrer dans les conseils municipaux.
Sûr, c'est ça que vous dites. J'assume totalement cela. Oui. Notre mouvement politique a besoin d'un ancrage territorial plus fort. Au fond, C'est ça l'enjeu pour la suite du quinquennat. C'est ça l'enjeu pour la décennie à venir. C'est un enjeu de transformation maintenant territoriale du pays. Si l'ensemble des actions que nous menons depuis le début de ce quinquennat, nous voulons qu'il s'applique partout. Je parlais tout à l'heure du dernier kilomètre de la réforme. Je crois profondément que c'est ça qui pêche dans la vie politique. Eh bien oui, nous avons besoin d'avoir ces relais locaux et ça sera ça l'enjeu des élections municipales.
Nicolas Barré.
C'est quoi cette formation politique que vous dirigez au fond? Est-ce que c'est un parti? Est-ce que finalement ce qui vous manque, ça n'est pas tout simplement un appareil, des militants, une discipline, des élus, un corpus clair, enfin tout ce qui fait un parti politique, quoi, classique.
C'est réjouissant.
C'est un mouvement. Quand on écoute ceux qui font votre mouvement, on n'arrive pas toujours à comprendre, hein, effectivement.
Eh bien, je vais essayer ce matin de faire la bonne pédagogie. C'est un mouvement citoyen, c'est-à-dire de gens qui, bien souvent, étaient épuisés de regarder le débat politique, s'enfermer dans des clivages qui ne représentaient plus rien et qui a mis le pays par terre. Ce sont des gens comme moi, comme d'autres, qui ont dit, eh bien, ça c'est fini. Maintenant, on va s'engager dans la vie politique de notre pays et on va transformer les choses. Et donc, moi, quelle est l'action que je mène à la tête de la République en marche? D'abord, l'engager profondément dans le débat d'idées. C'est ce que nous avons fait à l'occasion du grand débat. La République en marche a produit des idées, a fait travailler ses adhérents. Nous avons fait de nombreuses propositions, dont certaines d'ailleurs ont été reprises par le président de la République. C'est comme ça que j'envisage la République en marche. Et puis, c'est un mouvement qui donne le pouvoir aux citoyens pour faire des choses.
Donc oui, parti pour vous.
Oui, c'est un mouvement parce que c'est un mouvement citoyen et qui donne le pouvoir à ceux qui ont envie de faire, à ceux qui ont envie de transformer le pays. Vous savez, moi, mes plus grands objets de fierté,
vous avez une élection par an jusqu'à la fin du quinquennat.
Mais bien entendu, je crois que les deux objectifs ne sont pas antinomiques. Mais quand on a des citoyens qui s'engagent dans la vie politique locale, voyez, nous donnons le pouvoir aux gens de faire. Je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'exemples de citoyens qui parfois travaillent même avec des gilets jaunes. À Vesoul, je voyais l'autre jour un projet citoyen que nous soutenons tous au travail, un projet de covoiturage où des gens, avec l'aide de la République en marche, se sont engagés
pour permettre de changer. Pourquoi pas
à chaque fois, c'est pareil. Excusez-moi, Michel Daron, mais là, nous avons un point d'opposition fort. Refusez de voir cela. Ça change les choses concrètement. Et oui, des gens dans les quartiers, dans des zones rurales, là où les gens sont éloignés de la politique, viennent me dire, eh bien, comment est-ce qu'on s'engage aux élections municipales pour justement transformer l'engagement citoyen que nous avons eu.
J'entends parfaitement ce que vous dites, je ne refuse rien, mais j'entends également des ministres, des députés, des gens qui disent, on n'a pas de relais avec ce parti sur le terrain, on n'est pas relayé, on ne sait pas comment ça va se passer, il faut qu'on gagne maintenant une élection tous les 9 mois. Comment vous faites?
Mais bien entendu, en permettant de faire en sorte que des Français convainquent d'autres Français. C'est ça la recette magique qui nous a permis de gagner l'élection présidentielle et ensuite de gagner les élections législatives. Il n'y a pas de meilleure personne pour convaincre un de nos concitoyens que d'un autre Français qui est convaincu. Et moi, tout mon rôle à la tête de la République en marche, c'est de leur donner les moyens de le faire. C'est ce que je fais à la suite de Christophe Castaner depuis des mois.
C'est-à-dire en donnant, locaux, ça en donnant ce que vous dites,
plus
des
de moyens.
Locaux qui demandent
je vais vous répondre très concrètement, en permettant d'ouvrir des permanences sur le terrain, en donnant plus d'outils militants, en créant une fédération des élus progressistes, justement pour créer ces espaces de dialogue, pour faire en sorte que nous puissions communiquer de façon plus précise.
Vous définissez souvent votre mouvement progressiste, vous allez même faire une charte du progressisme au niveau local. Mais finalement, qu'est-ce qui vous différencie des autres partis politiques classiques, anciens mondes? Eux aussi se disent tous progressistes.
Eh bien, justement, parfois de refuser de rentrer dans le jeu dans lequel les médias veulent trop souvent nous enfermer en disant tous les projets citoyens, tout ça, ça n'a pas de valeur. Moi, c'est pas ça que je pense. Je pense au contraire que donner le pouvoir aux Français de maîtriser leur vie, c'est-à-dire d'agir concrètement pour changer la réalité autour d'eux.
Mais le participatif, ça, tout le monde le fait déjà aujourd'hui.
Sur le terrain, et ce n'est pas très vrai ce que vous dites. C'était peut-être vrai pour le Parti communiste il y a 30 ans, mais ça a cessé d'être vrai. Et je vois peu de formations politiques qui aujourd'hui, les quartiers, dans les zones rurales, justement, s'engagent très concrètement.
Pour prolonger ce que dit Damien Floreau, Stanislas Guérini, très souvent, lorsqu'il y a eu des textes un peu compliqués, vous n'avez pas hésité à vous mettre déjà un peu en rupture avec un peu la doxa, et vous dites pas de compromission, des compromis, mais pas de compromission. Est-ce que ça veut dire que justement vous considérez que ce gouvernement, cet exécutif est un peu trop équilibré sur le centre droit et que vous voulez rappeler que le progressisme, c'est aussi ce qui a fait l'ADN de la réussite à l'élection présidentielle.
L'action depuis le début du quinquennat, c'est une action progressiste. Quand nous faisons en sorte de diviser le nombre d'élèves dans les classes.
Il n'y a pas de droit à pôle gauche pour vous ?
Non, je ne crois pas. Et je crois que cette vision de la vie politique est toujours autant obsolète qu'elle l'était il y a deux ans, quand les Français ont décidé.
On la retrouve très présente à l'intérieur
du groupe. Une vision qui était obsolète. Moi, je crois que depuis le début du quinquennat, quand on augmente les minima sociaux, quand on divise le nombre d'élèves dans les classes, quand on fait cette réforme majeure, du reste à charge zéro, c'est-à-dire de faire en sorte que nos concitoyens n'aient plus un euro à avancer pour se soigner les dents, les oreilles, les yeux. Eh bien ça, ce sont des réformes qui sont profondément progressistes. Mais oui, nous avons besoin de davantage de relais locaux, d'abord pour le faire savoir et faire en sorte que tous nos concitoyens puissent s'emparer des droits nouveaux que nous créons à l'Assemblée nationale.
Alors progressisme toujours, vous avez enclenché une procédure disciplinaire à l'égard de la députée de l'Oise Agnès Thil pour des propos souvent jugés donc homophobes ou étant en contradiction avec les valeurs de votre mouvement. Est-ce que vous considérez qu'elle a sa place toujours au sein du mouvement La République En Marche avec les propos qu'elle tient régulièrement ?
D'abord, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Les procédures qu'il y a déjà eu, qui ont déjà eu lieu pour Agnès Thil, ce ne sont pas des procédures parce qu'elle a une opinion différente de celle du groupe majoritaire sur une réforme comme celle de la PMA. Chacun, particulièrement sur ces sujets, a le droit d'exprimer ses opinions et a le droit d'avoir des opinions contradictoires même avec la promesse que nous avons faite qui est d'ouvrir la PMA pour toutes les femmes, ce que nous allons faire. Et donc, si nous ouvrons une procédure, c'est qu'effectivement, par ces propos blessants à l'encontre d'un ministre, qui ne sont pas toujours en adéquation avec les valeurs de ce mouvement, elle ne permet pas de tenir ce débat apaisé que nous devrions avoir sur des sujets de société qui sont tellement importants. Et donc oui, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé à nouveau de convoquer les instances pour qu'elles puissent se prononcer de façon très rationnelle, de façon très calme.
Vous allez vous prononcer ou vous prononcer ?
Bien non, nous avons des procédures dans ce mouvement, même si parfois vous le trouvez un petit peu finalement déconstruit.
J'écoute.
Nous sommes très organisés pour faire en sorte que la commission des conflits du mouvement La République En Marche puisse se prononcer de façon justement circonstanciée et rationnelle.
Sur ce sujet, le projet de loi bioéthique, vous laisserez la liberté de vote à vos députés ? Vous engagez à ça ?
Oui, je crois que sur des sujets qui touchent autant à l'intime, c'est important que chacun puisse faire selon ses convictions, même si je n'ai aucun doute que notre majorité souhaite être fidèle à l'engagement du président de la République et d'ouvrir la PMA à toutes les femmes.
Dans le chantier législatif.
C'est mon opinion.
Dans le calendrier législatif qui s'annonce très chargé, ça doit être une priorité ce projet de loi ?
Oui, je crois que ça va être une priorité parce que c'est un projet qui, notamment pour la PMA, mais il ne faut pas réduire le projet de loi bioéthique au sujet de la PMA, nous aurons beaucoup de sujets à aborder. C'est un sujet qui touche intimement de nombreuses femmes.
Mais qui divise
demain
profondément les Français
pourront
aussi.
Attendre un bébé. Et donc, on est parfois, c'est se joue à quelques mois parfois pour des parcours de vie. Et moi, en tant que progressiste, justement, mon ambition, c'est de changer les parcours de vie de personnes. Et donc, effectivement, ce projet de loi,
Nicolas
à mon
Barret.
Sens, doit être prioritaire.
Nicolas Barret, justement.
Alors, il y a un autre sujet, beaucoup plus terre-à-terre, qui intéresse beaucoup vos députés en ce moment, c'est le sort des différentes présidences ou vice-présidences de commissions. J'avais une question d'abord de principe. Est-ce qu'il faut maintenir cette règle qu'avait instituée Nicolas Sarkozy, voulant que la présidence de la commission des finances revienne à l'opposition ?
Oui. Oui, résolument oui, c'est effectivement
c'est
pour moi oui, une règle de salubrité démocratique, de donner du pouvoir aux oppositions. Et d'ailleurs, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, a pris des mesures à la fois lucides, courageuses, pour ouvrir plus de droits aux oppositions dans l'examen des textes. Je pense que ce sont des bonnes mesures pour justement faire en sorte que notre vie politique, au fond, soit plus efficace au service des Français. Moi, je voudrais, face aux défis considérables que l'on a devant nous, que l'on puisse travailler davantage ensemble et non pas être tout le temps les uns contre les autres.
Eh bien, méthode toujours, on se retrouve pour la dernière partie de ce grand rendez-vous avec Stanislas Guérini après la pause.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et on se retrouve pour la dernière partie de ce grand rendez-vous avec Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, Nicolas Barré.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, avait été extrêmement fragilisé il y a quelques semaines après le saccage des Champs-Élysées. Il l'a été encore cette semaine avec ses déclarations imprudentes et manifestement trop rapides sur la pitié salpêtrière. Au fond, est-ce qu'il est vraiment à sa place ?
Oui, bien sûr qu'il est à sa place. Et je pense que ce débat que nous assistons depuis quelques jours, à mon sens, traduit une incroyable perte de repères dans le débat politique et médiatique. On a fait depuis quelques jours le procès médiatique du ministre de l'Intérieur parce qu'il n'avait pas utilisé le bon mot pour qualifier des gens qui s'étaient introduits dans un hôpital. Mais je crois qu'on perd toute mesure. On met un signe égal avec ce mot « attaque à la place d'intrusion trop rapide » et puis des gens qui, eux, crient « achevez-le » quand un policier est blessé, qui, eux, crient « suicidez-vous » à des forces de l'ordre. Mais je pense qu'on perd toute la mesure dans le débat politique. Moi, vous savez, je me déplace beaucoup, je rencontre beaucoup de nos concitoyens qui me disent que leur priorité, c'est de pouvoir, le samedi, sortir avec leurs enfants, que le maintien de l'ordre républicain soit effectivement assuré.
Mais pourquoi il a fallu attendre le saccage des Champs-Élysées pour en arriver à...
C'est que le maintien de l'ordre républicain a été assuré. Et c'est ça le rôle du ministre de l'Intérieur.
Il a été bien fait.
Et depuis plusieurs mois, nous avons justement, avec le ministre de l'Intérieur, avec son secrétaire d'État, qui font un bon travail, changé la doctrine d'intervention des forces de l'ordre. Regardez la différence entre le 1er mai 2018 et le 1er mai 2019. Parce que le ministre de l'Intérieur a su changer la doctrine d'intervention, aller davantage au contact. L'ordre a été maintenu. C'est ça qui est important aujourd'hui.
Vous avez parlé effectivement aux médias, mais est-ce que vous demandez aussi aux personnalités de la majorité, et pas des moindres, qui régulièrement expliquent que effectivement Christophe Castaner n'est pas vraiment à sa place et qu'il faudrait donc éventuellement...
Pensez à quelle expression, parce que moi je n'ai pas entendu ça. Je crois que la majorité fait bloc, au contraire,
oui,
quand le ministre de l'Intérieur a été, à mon sens, injustement attaqué ces derniers jours. Je n'ai pas entendu de déclaration qui irait penser que le ministre de l'Intérieur ne soit pas défendu. Le Premier ministre s'est exprimé de façon très claire. Le ministre de l'Intérieur a toute la confiance de la majorité. Je le dis ce matin sans aucune ambiguïté.
Certaines personnalités de l'opposition demandent toutefois qu'il s'explique, notamment par exemple devant des commissions, alors sans doute pas à l'Assemblée, mais peut-être au Sénat.
Vois que certaines personnalités de l'opposition veulent à la fois qu'il démissionne et puis qu'il vienne s'expliquer devant le Sénat.
Il y a
un peu de cohérence dans tout ça. Je pense que lors des questions au gouvernement, les oppositions auront tout le loisir d'interroger le ministre de l'Intérieur. Peut-être aussi de comprendre pourquoi, comment des personnes peuvent, encore une fois, s'introduire dans un hôpital. C'est de ça dont on parle quand même. Il ne faudrait pas perdre la mesure de ce dont nous sommes en train de parler. Je pense que le ministre de l'Intérieur pourra effectivement s'exprimer, rappeler dans quelles conditions il s'est exprimé assez rapidement, effectivement, après les faits. Il a reconnu lui-même, dès lors qu'il a eu toutes les informations, qu'il n'avait pas utilisé le bon mot parce qu'il n'avait pas les bonnes informations. Il s'était appuyé, je vous le rappelle, sur le témoignage de la directrice même de l'hôpital qui avait utilisé ces mêmes mots. Donc je crois qu'il faut maintenant passer à autre chose. L'opposition pourra interroger le ministre de l'Intérieur. Mais encore une fois, la priorité pour les Français, c'est l'ordre. Et vous ne me ferez pas dévier de cette ligne-là.
Juste avant de passer à autre chose, vous trouvez que c'est effectivement courageux de sa part de reconnaître un propos mal placé?
Oui.
Parce que c'est rare d'entendre au fond des dirigeants politiques qui font des mea culpa aussi clairement.
Oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça. Il y a une telle défiance entre les Français et leurs représentants politiques que si on ne sait pas dire de temps en temps, ici on a fait une erreur, là on doit corriger le tir. Ici, ce n'était pas le bon propos employé, alors on ne pourra pas reconstruire la confiance. Je crois que cela fait partie du mandat qu'on a reçu des Français, qu'Emmanuel Macron a reçu des Français, que de rétablir cette confiance-là, et ça passe par des moments de vérité.
Damien Fleurot.
Emmanuel Macron a clairement annoncé lors du dernier Conseil des ministres une sorte d'avis de licenciement général de son gouvernement si les résultats n'étaient pas les bons, si les ministres, les secrétaires d'État ne se mobilisaient pas suffisamment sur le terrain. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec lui, avec cet avertissement du chef de l'État?
Je n'ai pas non plus entendu un avis de licenciement général, mais c'est votre interprétation. Je suis d'accord,
c'est comme ça qu'on
évidemment
l'a compris et que les membres du gouvernement sont...
Nous l'ont confirmé.
Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Bien sûr que les membres du gouvernement doivent être sur le terrain. Pourquoi? Pour présenter notre projet aux élections européennes, parce que dans tous les champs de la vie politique française, cela aura un impact majeur. Donc oui, évidemment, il faut être sur le terrain pour faire ça. Et puis, il faut être sur le terrain, nous en parlions dans le début de cette émission, pour faire en sorte que davantage la vie quotidienne de nos concitoyens voit les changements des politiques que nous menons. Et ça, ça ne peut pas se faire dans les ministères, ça ne peut pas se faire à l'Assemblée nationale, ça doit se faire sur le terrain. Le Premier ministre était cette semaine en déplacement, justement dans des maisons de services au public, justement dans des endroits, dans des zones rurales, parfois ultra-rurales, là où les services publics depuis des décennies ont déserté. Eh bien, c'est de là que doivent repartir les politiques publiques.
C'est pour cela que le président
c'est
demande
la méthode pour la suite de ce quinquennat.
C'est pour ça que le président de la République demande à ses ministres d'ouvrir, de tenir des permanences comme le font au fond les élus et les députés pour être plus en phase avec les problèmes concrets. Ça va changer les choses, ça, selon vous?
Je crois que c'est essentiel. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, qu'une part des annonces du président de la République a été un peu sous-estimée d'une certaine façon. Quand nous annonçons un nouvel acte de décentralisation pour redonner plus de pouvoir aux collectivités, en s'appuyant sur un principe de différenciation territoriale. Je crois que c'est un changement majeur dans la vie politique de notre pays. Quand nous mettons en place un conseil citoyen pour des sujets aussi importants que nous abordons tout à l'heure, comme la transition écologique, pour dire concrètement qu'est-ce qui doit changer, comment en faire pour que la prime à la conversion pour les véhicules soit plus efficace, comment faire pour que l'argent que nous mettons dans la rénovation thermique des bâtiments aille à sa cible. Eh bien ça, ce sont les changements essentiels de la vie politique que nous devons mener, nous ne pourrons le faire qu'en étant au plus près du terrain.
Et pour prolonger effectivement ce que disait Damien Fleurot, si ça ne fonctionne pas bien aux élections européennes, est-ce qu'au fond le fameux effet waouh entre guillemets, ce serait pas de cette perte des élections et la difficulté d'enclencher une dynamique pour l'acte 2 du quinquennat?
Peut-être parce que je suis trop optimiste et positif, ce n'est pas en ces termes-là que je me pose la question. Moi, la seule question que je me pose, c'est chaque jour de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre, faire en sorte que nos concitoyens aillent voter aux élections européennes et que, contrairement à la dernière élection, nous soyons en tête. Nous sommes la liste qui peut battre aujourd'hui le Rassemblement national. N'ayons pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Il faudra tout faire pour être devant.
Vous êtes député de Paris, Stanislas Guérini. Sur la reconstruction de Notre-Dame, j'avais une question toute simple. Pourquoi ne pas dire, pour éviter toute polémique, qu'elle sera reconstruite à l'identique?
Parce que je ne crois pas, moi, qu'il faille absolument reconstruire à l'identique. Je pense que l'on peut être dans le respect de l'histoire de cette cathédrale, qui d'ailleurs a vu des changements, y compris des changements architecturaux, dans le cours de son histoire. Et donc, je pense au contraire que nous devons en faire un exemple pour mobiliser la société française, pour mobiliser des apprentis de tous les pays d'ailleurs, pour en faire un exemple de reconstruction aussi européenne et de mettre en œuvre le génie architectural français.
Et tout ça en 5 ans.
Bien, oui,
je pense que
ça nécessite la mobilisation. Ce n'est pas parce qu'on va faire vite qu'on ne va pas faire bien. Et j'ai toute confiance dans le ministre de la Culture pour bien conduire justement cette rénovation.
Le projet de loi qui est en préparation prévoit de, en quelque sorte, nationaliser les dons privés. C'est-à-dire que l'État aurait la main sur l'utilisation de ces fonds alors que les donateurs ont donné plutôt à des fondations. Est-ce que c'est normal, ça?
Mais c'est justement un gage d'efficacité pour pouvoir tenir nos engagements. Je pense que c'est un engagement très important que le président de la République a pris.
Mais les gens qui ont donné, ils ont donné à une fondation, ils n'ont pas donné à l'État.
Reconstruire vite. Oui, mais vous m'interrogez sur l'efficacité, la cohérence. Eh bien, tout ça, ça va donner de la cohérence, justement. Et nous avons créé les bons outils pour pouvoir être efficaces dans la reconstruction de Notre-Dame. Si nous ne le faisons pas, alors nous ne tiendrons pas l'engagement de reconstruire vite. Je suis parisien, comme tous, amoureux de cette cathédrale. On a tous une part de notre histoire qui est attachée à Notre-Dame. Eh bien, je pense que l'on peut au contraire créer du consensus dans notre société au moment où on le cherche tant, où on cherche tant à faire société.
La nationalisation des dons, c'est pas, ça ne crée pas un consensus, hein, ça peut vous dire.
L'enjeu majeur, c'est de reconstruire Notre-Dame.
Alors vous avez justement
les outils, c'est secondaire. Voilà. Et les outils doivent être mis au service d'un objectif qui est un objectif de société, qui est de
vous
reconstruire Notre-Dame
justement
rapidement. Et dans le respect du génie architectural français.
Vous évoquez justement les bons rouages, les bons outils, mais il y a aussi quand même un élément, et pas des moindres, le général Georges Olin, ancien chef d'état-major, représentant spécial du président pour la reconstruction. C'est lui qui, au fond, pilote tout. C'est normal de confier à un général le soin de reconstruire Notre-Dame?
Ce n'est pas parce qu'il est général, c'est parce qu'il est une personnalité qui a su démontrer dans son parcours l'efficacité. Eh bien,
c'est pourquoi,
je crois que nous avons besoin
d'efficacité.
C'est la même question. C'est la même question que vous me posez. Nous avons besoin de mettre en cohérence toutes les forces vives de la nation pour pouvoir reconstruire Notre-Dame rapidement, eh bien, c'est une bonne politique, c'est une bonne mesure.
Le profil est un peu particulier, vous l'admettrez, mais en dehors.
On a besoin d'aller vite, on a besoin de coordination. Mmh. Je crois, je ne connais pas cette personnalité personnellement, mais de son parcours, de ce qu'on connaît, il saura effectivement mettre en cohérence et donner toute l'efficacité nécessaire à la reconstruction de Notre-Dame.
Eh bien, effectivement, c'est ce, notre espoir que l'on va terminer ce grand rendez-vous avec vous, Stanislas Guérini, donc délégué général de La République En Marche. Il y aura encore un rendez-vous politique sur les européennes, donc c'est mardi, le prochain débat, donc avec Europe 1 et CNews. Donc, elle est responsable de parti. Donc, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Mickaël Darmon, c'était le grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos à écouter ou réécouter sur europe1.fr.